BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel des principaux titres de l'actualité. Les tensions qui persistent sur les marchés financiers à quelques heures du blocus annoncé par les Américains sur les ports iraniens. Le CAC 40 dans le rouge ce midi. Côté pétrole, le baril de Brent est nettement repassé au-delà des 100 dollars. On est autour de 102 dollars. Le marché obligataire reste lui aussi particulièrement tendu. Le 10 ans français aussi autour des 3,7% et le 10 ans allemand au-dessus des 3%. Il faut dire que la trêve décidée il y a moins d'une semaine semble de nouveau menacée. L'armée américaine ayant donc annoncé le blocage des ports iraniens pour aujourd'hui 16h, heure française. Décision prise après l'échec des pourparlers démarrés ce week-end au Pakistan. L'Iran, qui dénonce un blocus illégal, parle de piraterie et menace de nouveau ses voisins du Golfe. Notez qu'Emmanuel Macron annonce ce midi l'organisation par la France et le Royaume-Uni d'une conférence dans les tout prochains jours pour monter une mission multinationale pacifique destinée à restaurer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Mission qui aura vocation à se déployer dès que la situation le permettra. Voilà ce que précise le président français sur les réseaux sociaux. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Écoutez BFM Business dans les grandes villes de France. En live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com.
BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence qui vous concerne, amis professionnels de secteur de l'IMO, et qui nous concerne, usagers de l'immobilier, de nos logements. Aujourd'hui, on va avoir un témoignage terrain d'une belle rénovation. Qui a dit qu'on pouvait pas gagner 3 notes de performance énergétique? Qui a dit qu'on pouvait pas passer de la note E à la note B? Évidemment pas moi, et vous allez voir dans quelques instants que c'est possible. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé SCPI, mais voyageons en dehors de la France avec nos chers et tendres SCPI. Allez, d'abord, c'est l'heure du Pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le Pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec David Guérin, responsable de l'agence Illico Travaux de Marchecoul. On est en Loire-Atlantique. Bonjour David. Et je le disais, on va avoir votre témoignage d'une rénovation quand même assez spectaculaire, parce que passer de la note E à la note B, c'est pas donné à tout le monde. J'imagine qu'il a fallu un peu bosser quand même.
Oui, effectivement. J'ai accompagné un couple de retraités qui souhaitaient remplacer leur chaudière à fioul, et j'aurais proposé justement de faire un dossier MAR, mon accompagnateur rénovation, pour faire de la rénovation d'ampleur. Et on leur a proposé aussi de faire de l'isolation par extérieur et changer quelques menuiseries. Ce qui fait qu'ils sont passés de la note de E à B.
Mais ça, en l'occurrence, on est d'accord, c'est une maison. C'est pas dans le collectif.
C'est une maison. Donc, c'est une maison des années 70 qui n'avait pas d'isolation et qui se chauffait au fioul à l'époque. Et donc, ils souhaitaient faire des économies. Ils étaient classés en revenus en catégorie très modeste. Donc, ils avaient besoin d'aide, donc ils sont venus nous voir pour trouver des solutions et comment bénéficier de MaPrimeRénov. Donc après, on a suivi le cursus avec le MAR, en commençant par un audit énergétique. On a présenté les devis, donc ça a duré 3 mois. Ensuite, il a fallu attendre 6 mois de l'accord de l'ANA pour valider le montant de la prime. Et un mois après, donc, ils ont pu bénéficier de la compte de 30%. Et on a démarré les travaux 3 à 4 mois après, justement, l'accord.
Et ça a pu aller au bout, parce que quand vous parliez, vous disiez 6 mois l'accord de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, donc qui distribue MaPrimeRénov. Oui. C'est chaud quand même, on ne va pas se mentir, David, quand on lance des travaux.
Effectivement, c'est très très long. Pour ce genre de dossier, il faut au moins compter 18 mois entre les premières démarches avec de l'audit avec le MAR et entre l'accord et les travaux. Et maintenant, on est dans l'attente de recevoir MaPrimeRénov. Donc, les travaux sont terminés.
Ah oui, vous ne l'avez toujours pas reçu, là.
Non, il faut attendre entre 6 mois et 9 mois, ce qu'on nous annonce. Donc, et je sais que l'ANA, là, font des contrôles complémentaires, justement, pour savoir si les travaux ont été bien réalisés. Donc, voilà, nous sommes dans l'attente.
C'est quand même dramatique ce dont vous parlez, parce que vraiment, David, là, vous parlez vraiment d'un cas concret de personnes âgées qui sont éligibles aux aides pour la rénovation, qui font partie des ménages très modestes et qui, là, sont toujours en attente. Enfin, il faut quand même avoir les reins financiers suffisamment solides. En plus, là, pour le coup, c'est très à propos, votre histoire, puisqu'en plus, eux, ils sont passés d'une chaudière fuel à une pompe à chaleur. Donc, dans cette vague d'électrification que tout le monde réclame et que le gouvernement appelle de ses voeux, avoir comme ça des aides qui, 6 mois, 8 mois, 10 mois, 18 mois après, sont toujours pas versées, c'est quand même désespérant.
Oui, surtout que c'est long déjà le temps que l'ANA prenne leur décision. Donc là, ils avaient associé avec leur chaudière fuel qui tombait en panne, qui réparait, en espérant pouvoir bénéficier de cette aide-là pour pouvoir la remplacer par la pompe à chaleur. Donc, c'était les premières difficultés. Là, ça y est, les travaux sont faits. La chance qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont pu avancer les aides pour les travaux. Maintenant, ils attendent le retour du remboursement pour eux, pour pas être pénalisés par rapport à leurs revenus, quoi.
Bah, heureusement qu'il y a des professionnels comme vous pour épauler ces gens qui n'ont pas perdu la foi dans la rénovation, parce que franchement, c'est pas l'ANA et MaPrimeRénov qui aident véritablement à déclencher les actes de rénovation. Donc, si on pouvait profiter de votre témoignage et de cette volonté d'électrification de notre bâti en France pour peut-être essayer d'accélérer un tout petit peu les choses, ce serait pas mal. Merci David pour votre témoignage. David Guérin, merci, responsable de l'agence Illico Travaux de Marche Cool en Loire-Atlantique. Si comme David, vous avez un témoignage à nous apporter, n'hésitez pas à nous écrire, on a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Et forcément, quand on parle SCPI, forcément, il y a Paul Bourdois, le cofondateur de France SCPI. Bonjour Paul.
Bonjour Marie-Cœur de Roy.
Alors c'est moins forcément, mais quand même vous venez assez régulièrement chez Eurial. David Fink, directeur général d'Eurial. Bonjour David.
Bonjour Marie-Cœur.
Et on s'était dit qu'aujourd'hui, pour parler SCPI, on allait voyager. Alors, pas très loin, mais on va voyager quand même. Parce qu'effectivement, de plus en plus, quand on parle SCPI, on nous vend des SCPI hors de France. Ça veut dire quoi, hors de France, concrètement, messieurs? Je voudrais savoir de quoi on va parler aujourd'hui.
Hors de France, c'est l'Europe.
C'est l'Europe, oui. C'est pas...
Mais c'est même plus loin que l'Europe, parce qu'aujourd'hui, certaines SCPI vont au-delà de l'Europe, en attaquent le marché d'Amérique du Nord.
Mais pourquoi? Il est pourri, notre marché, à nous?
Non, il n'est pas pourri, mais il est petit, il est étroit, il est cher. Et donc, nous, ça fait plus de 10 ans avec notre SCPI qu'on est sur le marché européen. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on est sur le secteur de la santé. On ne peut pas se contenter uniquement d'acheter de l'immobilier en France, même si 30% de nos investissements se font en France. Le marché européen est un marché indispensable. Et puis en plus, dans la santé, le vieillissement, les moteurs en réalité de la santé, ils se valent mondiaux.
Partout, ouais, ils se valent partout, c'est ça. Les évolutions démographiques sont les mêmes partout en ce moment, qui plus est en Europe. Ma question, c'est, ok, la France est un petit marché, mais j'imagine qu'il y a d'autres intérêts à partir un peu en dehors de nos frontières, Paul.
Il y a deux intérêts majeurs. Vous avez raison, Marie. Il y a deux intérêts majeurs. Le premier, c'est qu'en effet, comme l'a dit David, il y a un marché qui est plus grand, donc il y a plus d'opportunités. Et en ce moment, la France a moins le vent en poupe que les autres marchés européens, donc la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie. Ça, c'est le premier intérêt, un marché plus opportuniste, plus grand. Et le deuxième, évidemment, c'est la fiscalité qui est plus avantageuse dans d'autres pays que celle de la France.
Ouais. Pourquoi? C'est-à-dire? Alors, il va falloir rentrer dans le détail. Alors, parce que moi, vous me parlez de fiscalité, j'ai envie de dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui va différencier mon investissement?
La fiscalité des revenus fonciers, parce qu'il faut la rappeler quand même à ceux qui nous écoutent, et là, ils vont comprendre la martingale. La fiscalité des revenus fonciers, qui est la fiscalité des SCPI classiques, c'est votre tranche marginale d'imposition sur les revenus, plus les prélèvements sociaux, la CSG-CRDS, donc 17,2. Si vous êtes dans une tranche à 30%, eh bien, vous avez quasiment 50% de fiscalité.
Peu, ouais.
Ça pique. Les SCPI européennes, si vous êtes dans des SCPI 100% hors de France, eh bien, premièrement, vous n'avez pas de CSG-CRDS, pas de 17,2%, donc ça, c'est un premier point. Et les gens qui nous écoutent là doivent se dire, ah, c'est pas mal, mais il y a un deuxième effet qui se coule, c'est que quand vous investissez dans une SCPI qui est 100% européenne, hors de France, eh bien, vous n'avez pas votre tranche marginale d'imposition qui est appliquée, vous avez la fiscalité. Non, pas la flat tax, même pas. La fiscalité qui est liée au pays dans lequel se trouve l'actif. Et, alors ça diffère de quelques points selon les pays, mais on peut arrondir à 20%, donc en clair.
En dessous de la flat tax.
En dessous de la flat tax. Donc quand vous investissez dans des SCPI 100% hors de France, vous avez une fiscalité qui est à peu près de 20% sur vos revenus fonciers, ce qui est quand même
pas mal. Quelle que soit ma tranche marginale d'imposition.
Oui, absolument. Oui.
C'est pour ça, David, que,
je vais...
vous êtes baladé?
Non, pas du tout. Alors, je pense que le critère d'investissement, ça jamais la fiscalité. Ça, c'est la première chose. Mais c'est vrai que la fiscalité, c'est quelque chose qui va intéresser l'investisseur. Donc, du côté investisseur, je peux comprendre qu'ils aient un intérêt aujourd'hui avéré à rechercher des SCPI qui vont délivrer en fait des rendements élevés, parce que les marchés à l'étranger sont plus rémunérateurs que le marché français et la fiscalité plus faible. Mais pour rappeler tout simplement, il y a quand même une fiscalité, c'est la SCPI qui la paye. La SCPI paye la fiscalité dans chacun des pays dans lesquels est situé son immeuble. Mais c'est vrai que l'investisseur ne repaye pas une fiscalité parce qu'il y a des conventions internationales entre la France et tous les pays d'Europe, et même au-delà de l'Europe. Donc c'est très, très avantageux, mais ce n'est pas le critère essentiel. Mais aujourd'hui, les investisseurs se sont quand même beaucoup focalisés sur les SCPI internationales. Je vais vous donner un chiffre. En termes de SCPI, 80% des investissements sur ces derniers trimestres ont été faits à l'international.
Pas en France.
Pas en France. Et si je regarde sur une période un petit peu plus longue, entre 2018 et 2020, ça représentait un tiers, l'Europe. Aujourd'hui, c'est deux tiers, entre 2024 et 2025. Donc vous voyez qu'il y a une tendance naturelle à aller vers de la SCPI internationale.
Alors vous dites que ce n'est pas la fiscalité le premier, mais quand même, c'est quand même concomitant avec nos débats, nos problématiques politico-budgétaires en France, ce petit changement de paradigme, non ?
Oui, alors nous, on y va parce que, bien évidemment, la fiscalité, c'est la cerise sur le gâteau. Mais on n'y va pas que pour ça, parce qu'on a besoin d'investir sur le territoire européen en termes de santé. Ça, c'est certain. Mais il ne faut pas oublier que nos investisseurs et toutes les nouvelles SCPI, vous avez vu qu'il y avait quand même beaucoup de nouvelles SCPI qui sont arrivées sur le marché depuis 2024-2025, ce sont des SCPI diversifiées, opportunistes, ce qu'on appellerait, et qui ont une stratégie d'investissement très européenne pour justement répondre à ces avantages fiscaux que nos investisseurs recherchent. Il ne faut pas être naïf, hein.
Et du coup, Paul, moi, je vous regarde, parce que là, effectivement, avec Uriel, on parlait SCPI de santé, mais j'imagine que, oui, effectivement, les évolutions démographiques sont telles que, finalement, on a les mêmes problématiques en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, enfin, voilà. Il y a des thématiques qui sont peut-être pas les mêmes et qui ont peut-être pas les mêmes, les mêmes perspectives de croissance partout, sur n'importe quel territoire, non ?
Non, c'est ce qui fait d'ailleurs la complexité de l'investissement européen. C'est que aujourd'hui, en effet, les épargnants, l'épargne est plutôt fléchée vers des SCPI européennes. Mais vous avez raison, toutes les thématiques ne marchent pas dans tous les pays, si ce n'est que quand même, on a des situations démographiques qui sont à peu près les mêmes, quels que soient les pays d'Europe. Alors, il y a des pays d'Europe où c'est plus intéressant d'investir dans des hubs logistiques. Il y a des pays d'Europe où c'est plus intéressant d'investir dans des locaux commerciaux. Donc, il faut faire attention et il faut faire confiance aux sociétés de gestion qui, normalement, sont expertes là-dedans. Mais là encore, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui se retrouvent à investir en Europe parce que c'est un peu la mode. Et donc, là, il faut faire sa sélection.
Et justement, moi, je vous pose la question. Selon vous, quels sont les pays sur lesquels j'ai moins de réticence à avoir quand je vais voir une SCPI qui est présente là-bas, les thématiques que je devrais éviter, que je devrais privilégier, messieurs, voilà, qu'on puisse essayer, justement, comme vous le disiez, c'est une espèce de mode, là, en ce moment. Donc, super. Ok, j'ai compris. Maintenant, lesquels sont vraiment dans cette tendance juste pour la mode et pour la fiscalité, ou est-ce qu'il y a un vrai sous-jacent sérieux derrière ?
Alors, moi, je vais vous dire, phénomène de mode. Nous, on est allé depuis 2015, on était en Europe.
Ouais.
Le premier pays sur lequel on est allé, c'est l'Allemagne. Parce qu'à l'époque, l'Allemagne était réputée comme étant un pays sécure, sûr en termes d'économie. Et il est bien évident que quand on va investir dans un pays, on va s'intéresser à la fiscalité, mais pas qu'à la fiscalité, à la partie réglementaire et à tout ce qui peut être l'économie du pays. Donc on a privilégié les pays les plus riches. En 2020, on est allé au Royaume-Uni. Alors le Royaume-Uni a une particularité, c'est un marché très dynamique, c'est certainement le marché le plus dynamique dans toute l'Europe. Par contre, il a un petit inconvénient, c'est qu'il n'a pas la même monnaie que, je veux dire, l'ensemble de l'Europe. Donc là, on a essayé de travailler sur des sujets pour justement essayer de minimiser ce risque qui est le risque de taux de change.
De change, ouais.
Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait signer à nos locataires des baux en euros. Donc ça n'a pas été facile, mais on l'a fait. On peut aussi avoir d'autres moyens qui sont de mettre des couvertures de taux sur les loyers. Et puis la mutualisation du risque, c'est la chose la plus importante dans une SCPI. C'est la diversification, c'est être sur plusieurs pays. On est sur 9 pays. Il n'y a pas un pays qui représente, à part la France, plus de 20% de notre patrimoine immobilier. Donc, si c'est plus avantageux dans un pays, on y va au moment où c'est opportun.
Mais il n'y a pas de pays il n'y a pas de pays sur lequel vous dites attention warning, quoi.
Ah, dans toute l'Europe ?
Ouais.
Oh, si, sûrement. Il y a des pays qui sont quand même moins. En tout cas, nous, on est sur les pays, les grands pays, les
ceux parce qui que, sont majeurs. Voilà, c'est ça. Vous dites, nous, en tout cas, on s'est basé sur les pays les plus solides,
les
avec des croissances qui restent quand même confortables. Enfin.
Oui.
Pas confortable.
En fait, nous, on demande, on encourage nos clients, ceux qui viennent sur France SCPI, à regarder des sociétés de gestion. On les encourage, après, c'est eux qui ont le dernier mot, bien évidemment, à aller vers des sociétés de gestion qui ont un historique européen de savoir-faire. C'est le cas de votre société de gestion. Mais il y a des sociétés de gestion, en effet, qui ont des bureaux qui sont dans différents pays. Alors, plus que la typologie d'actifs sur lequel vous nous questionniez tout à l'heure, c'est plutôt sur la connaissance et l'expertise de la société de gestion. Je peux citer d'autres sociétés de gestion.
Allez-y,
Edmond Rothschild, qui a des bureaux dans différents pays, qui est intéressante. Advenis aussi, Aerial, bien évidemment. C'est des sociétés de gestion qui ne vont pas là-bas par opportunisme. Mais vraiment, c'est hyper important.
Oui, mais comment... Alors, ma question, Paul... c'est comment je détermine et comment j'identifie celles qui y sont justement par simple opportunisme.
C'est simple, c'est la mode des SCPI européennes depuis 2-3 ans. Mais à juste titre, hein, parce qu'il y a des affaires à faire en effet. Vous regardez celles qui sont sur ces pays européens, qui investissent sur ces pays européens bien avant cette période-là.
Et oui, mais alors imaginez, ça veut dire que les dernières arrivées sont forcément...
Non, pas du tout, parce que vous avez l'exemple d'Eurial qui crée une nouvelle SCPI. On peut se dire, il faut que j'aille sur ces nouvelles SCPI. Oui, mais quand vous regardez l'historique de la société de gestion... Ça fait déjà une dizaine, quinzaine d'années qu'elle est sur ces pays européens. Donc non, il faut regarder aussi l'historique. Donc évidemment, ça vient pas dans le sens des nouvelles SCPI
c'est
qui viennent de se lancer.
Ouais, donc,
c'est vrai.
Forcément, ça veut dire que je vais éviter les nouvelles SCPI.
Non, vous les évitez pas, mais vous diversifiez le risque en investissant sur différentes SCPI.
Alors, il faut peut-être pas dire que toutes les nouvelles SCPI ne sont pas spécialisées, mais en réalité, il y a des SCPI, comme nous, une société de gestion, on a deux SCPI à l'international, vous avez d'autres SCPI qui avaient déjà un peu commencé à initier une internationalisation sur des SCPI qui existaient déjà, et puis vous avez ces sociétés de gestion qui ont créé de nouvelles SCPI sur lesquelles ils ont fait un choix de se dire on sera totalement international parce que c'est la recherche du rendement aujourd'hui. Il faut être pragmatique. Les investisseurs
cherchent
du rendement et du rendement élevé et une fiscalité allégée.
Mais alors du coup, en termes de rendement, c'est quoi la différence entre une SCPI 100% française et une SCPI 100% hors de France, par exemple, aujourd'hui?
Il y a des rendements qui sont supérieurs en moyenne dans les SCPI 100% européennes. Je prends vraiment ce point 100% hors de France, parce que vous avez beaucoup de SCPI aujourd'hui qui investissent à la fois en Europe et à la fois en France. Bon, les SCPI européennes, je rappelle la moyenne des SCPI aujourd'hui sur le marché en 2025, taux de distribution 4,91%. Ça, c'est la moyenne de tout ce qu'on peut avoir. Les SCPI 100% européennes, on est quasi à un point au-dessus, entre 5,5% et 6%. Donc, ça, c'est la première chose. C'est le premier effet qui se coule, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Le deuxième effet, c'est que la fiscalité, comme on l'a vu, elle est moins forte.
Ouais.
Donc, ce que vous avez en brut... Ce que vous avez en net, c'est aussi plus élevé, puisqu'on a une fiscalité qui est 20%.
Plus douce.
Vous êtes plus douce, exactement. Donc, il faut regarder aussi ça. Donc, pour une SCPI avec un rendement de 5%, 100% française, et une SCPI de 5%, 100% européenne...
À la fin, je récupère quand même davantage.
Exactement.
Et du coup, est-ce qu'on pourrait se dire que les SCPI à l'étranger en Europe s'adressent peut-être à ceux qui, aujourd'hui, ont la fiscalité la plus lourde? Peut-être que c'est aussi ça le sujet, c'est se dire que pour ceux qui ont quand même des revenus assez confortables, c'est peut-être pour eux qu'il y a des opportunités à saisir, ou vous pensez que c'est pour tout profil d'investisseur?
Bon, pour moi, c'est pour tout profil. La SCPI s'est beaucoup démocratisée quand même ces dernières années. Vous avez des investisseurs qui font des petits tickets, des tickets à 5 000 euros, 10 000 euros, pas obligatoirement des tickets à 300 000. Et puis, vous avez beaucoup d'investisseurs qui ont fait le choix de diversifier, qui détiennent 5, 6, 7 SCPI différentes. Donc, c'est pour tout le monde, mais bien évidemment que si vous avez une fiscalité qui est beaucoup plus importante, c'est sûr que ça va être plus intéressant. Mais attention à l'IFI, hein, parce que l'IFI existe.
C'est-à-dire, redites-le-moi ça.
C'est de l'immobilier, donc.
Oui, et donc nature, à la fin des fins, quand même, ça ne change rien.
Non, que vous soyez investi en France ou à l'étranger, il y a toujours de l'IFI.
Sauf, Marie, si vous investissez en nue propriété.
Oh là là, ça y est. Mais il faut qu'on en refasse de la SCPI en nue propriété. C'est ça, c'est du démembrement de SCPI, c'est ça?
Oui, ouais, absolument.
Ouais, alors je sais, ça a l'air technique comme ça, ou alors glauquissime, mais en fait, l'idée, c'est de distinguer, on est d'accord, les murs de l'usage. On est d'accord, c'est à peu près l'idée.
Exactement, exactement. Vous vous dites, le droit de propriété d'une SCPI, quand j'investis en pleine propriété, je peux le diviser en deux droits. Ça y est, on commence cette technique. L'usufruit et la nue propriété. L'usufruit, c'est le fait de percevoir des revenus. Et la nue propriété, c'est quand je dis je ne vais pas percevoir de revenus. En revanche, j'achète bien des parts et puisque je ne perçois pas des revenus, la société de gestion accepte de me vendre les parts à un prix qui est décoté.
Plus faible.
Et quand j'investis dans cette nue propriété, ça sort de l'IFI.
Ouais, mais moi, je me suis toujours posé la question, alors je vais peut-être perdre tout le monde là-dessus, mais moi, sur le démembrement de SCPI, parce que comme on l'a dit, quand on fait de la SCPI, c'est quand même pour le rendement. Pas la plus-value potentielle en sortie. Donc là, on est sur une autre forme d'investissement.
Alors,
à SCPI,
pas tout à fait,
non ?
Pas tout à fait. Parce que l'objectif en fait, des gens qui font de la nue propriété, c'est de se dire, moi j'ai 45 ans, je veux organiser ma retraite, je n'ai pas besoin d'avoir de revenus pendant 10-15 ans. Donc pourquoi percevoir les revenus qui vont être très fortement fiscalisés alors que je n'en ai pas besoin ? Je préférerais avoir 100% de mes revenus au moment où ça va se remembrer. C'est un peu technique, l'usufruit et la nue propriété vont se remembrer, mettons, dans 10 ou 15 ans. À ce moment-là, je percevrai des revenus qui seront fiscalisés, mais j'aurai, entre guillemets, moins de revenus du travail. Donc, en fait, c'est une modalité, si vous voulez, d'investissement pendant une période pendant laquelle vous n'avez pas réellement besoin de revenus.
Mais avec la conviction profonde que forcément, je ferai une culbute à la fin, parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt.
Ah ben si, parce que vous payez moins cher au départ.
Oui, mais imaginez que, par exemple, la crise est passée par là. Covid, guerre en Ukraine. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que traditionnellement, quand dans l'émission on parle SCPI, on parle effectivement du rendement immédiat plus que de la plus-value potentielle en sortie. Et on sait que les soubresauts de marché existent.
Non, mais là, ce n'est pas de la plus-value potentielle que vous espérez. C'est un revenu qui est différé et que vous augmentez au terme du remembrement. Donc, ça commence à être un peu technique. On s'éloigne du sujet des SCPI européennes.
Mais c'est vachement intéressant. Du coup, moi, j'y vais. Et d'ailleurs, on peut faire du démembrement hors de France ?
Bien sûr.
Et bien voilà, vous voyez, on reboucle la boucle.
Sur des SCPI européennes qui sont situées hors de France, en effet. Oui, tout à fait.
Et ça, c'est un truc qui monte
Dans notre SCPI, on a à peu près entre 20 et 25% de nos investisseurs qui sont des membres. Hein.
Ah ouais ? Ah, je ne me rendais pas compte de la proportion, et parce que c'est ultra technique. Déjà, le mot SCPI, vous disiez que ça s'était quand même démocratisé, la SCPI. On est d'accord, mais enfin, personne ne vous y a aidé, hein, clairement, à part nous. Hein. Mais en plus de ça, rentrer dans cette technicité, c'est des gens qui ont des revenus confortables. Vous disiez 45 ans, plutôt au moment de la carrière où j'ai mes revenus importants et j'ai...
Voilà, où je cherche vraiment à me poser la question de la retraite et comment je vais constituer ma retraite. Mais après, il y a des conseillers en gestion de patrimoine qui sont là pour ça, qui sont là pour éduquer leurs clients, pour leur expliquer quel est le meilleur montage financier pour acheter de l'immobilier.
Vous en faites beaucoup de démembrement ?
On en fait beaucoup. On accompagne nos clients sur toutes les SCPI. On peut démembrer toutes les SCPI. Et encore, Marie, on n'a pas parlé de l'usufruit, mais ça, ce sera dans une prochaine émission.
Usus fructus abusus, c'est ça ?
C'est ça.
Et donc, c'est là qu'on démembre, en fait, à ce moment-là où ça devient compliqué. Juste d'un mot, messieurs, parce qu'il nous reste que 4 minutes. J'aimerais vraiment qu'on revienne quand même sur les thématiques. J'ai bien compris la diversification. J'ai bien compris qu'il y a des sujets qui se jouent en France comme ailleurs en Europe. Malgré tout, j'insiste encore lourdement, quand je vais diversifier, est-ce qu'il y a des gros warnings ? Parce qu'à chaque fois, on vend la SCPI et c'est votre rôle, évidemment. Maintenant, je voudrais quand même qu'on ait des gros warnings et des mises en garde. On a dit, alors, le track record, c'est important pour celui ou celle qui va se lancer et qui va voir que vous n'avez pas déboulé il y a 2 ans quand tout le monde y allait. OK. Mais est-ce qu'il y a des thématiques où vous vous dites, attention, en ce moment, et en particulier hors de France ?
Alors, moi, je ne dirais pas en thématique, mais je dirais surtout en taille et en expertise. C'est-à-dire qu'en taille du véhicule, notre SCPI, nous, elle a déjà plus de 12 ans. Elle fait 3 milliards d'euros. Elle a 250 immeubles et on est sur 9 pays. Donc, ça veut dire que cette diversification, au-delà de la fiscalité, qui va être très intéressante pour notre investisseur, elle va se traduire par, en réalité,
une sécurité aussi, voilà.
Différents suivant les pays. Et puis, surtout, il va y avoir des opportunités de marché. L'année dernière, on a beaucoup investi en Italie parce qu'on pense que c'est un marché qui est très porteur, l'Italie. On a désinvesti un petit peu au Royaume-Uni parce qu'on a considéré qu'on était trop investi au Royaume-Uni. On avait plus de 25% de patrimoine qui était au Royaume-Uni. Aujourd'hui, on l'a ramené à 20%. Donc, vous voyez, on peut jouer des thématiques, on peut jouer des pays.
Parce que la taille vous le permet, c'est ça l'idée.
C'est la taille qui nous le permet.
Paul ?
Moi, je dirais qu'au-delà de la diversification, à chaque fois, je le répète, hein, mais diversification sur plusieurs SCPI, il faut prendre en compte trois risques qui sont extrêmement importants dans les SCPI européennes. C'est un, la complexité des marchés, c'est-à-dire qu'il faut voir quel SCPI peut gérer la complexité des marchés. Il y a différents marchés, différents pays, différents cadres juridiques. Il faut donc aller vers des SCPI qui ont des sociétés de gestion, donc qui ont de l'expérience. Deuxième, le risque locatif, mais ça, c'est propre à toutes les SCPI. Ouais. Et puis trois, le taux de change, hein, quand même. On en parlait. Il y a quelques instants, c'est extrêmement important parce que c'est pas parce qu'un marché se porte bien que la monnaie se dévalue pas. Donc voilà, c'est important. Et moi, je dirais pour finir que je vais vous citer une expression, la mode, c'est ce qui se démode. Attention aux SCPI qui disent bon, on va vers l'Europe parce que c'est la mode. Je pense que dans quelques temps, vous m'appellerez pour qu'on parle des SCPI 100% françaises. C'est sûr et certain. Il y aura des opportunités.
Votre conviction aussi, David ?
Ma conviction, c'est la même que Paul. Pour moi, c'est vrai que la stratégie, pour nous, elle est sur la santé. Donc, on ne peut pas échapper au fait d'investir dans tous les pays d'Europe et même au-delà, puisque nous avons créé une SCPI qui va investir au Canada et aux États-Unis, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, ce marché est porteur. Ce marché, il y a des opportunités parce que le vieillissement de la population, le besoin d'infrastructures, l'amélioration en termes de santé fait que il faut construire, il faut porter de l'immobilier. Et puis nos opérateurs, qui sont nos exploitants, ont besoin d'être accompagnés pour se développer fortement. Et nous, on est un accélérateur du développement des exploitants du secteur de la santé depuis plus de 12 ans.
Mais vous allez revenir pour nous faire du 100% français, c'est ça aussi ?
Mais je fais du français, 30% est en France.
Merci à tous les deux, c'était passionnant. Il faudrait vraiment qu'on se refasse un truc sur le démembrement de SCPI. Ça a l'air hyper technique comme ça, mais moi je trouve ça vraiment passionnant et savoir pour quel profil aussi on investit. Parce que certes, on investit à prix décoté, donc on peut se dire qu'effectivement, ça peut être intéressant pour ceux qui rentrent sur ce marché. Mais en réalité, souvent le démembrement, c'est plutôt pour des investisseurs un peu avisés. Alors je vais pas dire senior parce que ça va me faire du mal, mais voilà. Quand on a passé 40 ans, je pense que c'est le mieux. Et pour les jeunes, peut-être rester sur de la SCPI classique. Mais on pourrait se faire ça, ça serait vraiment chouette.
Ou SCPI par emprunt aussi, c'est envisageable.
Oui, faudrait. On a plein de thématiques, en fait, dès qu'on parle de SCPI. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi. David Fink, directeur général d'Oréal, et Paul Bourdois, le cofondateur de France SCPI. Merci de nous avoir suivis. Les experts de l'IMO reviennent demain sur BFM Business.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.